Aujourd'hui, la masterclass de Marie-Agnès Gillot avec Aurélie Charron.
Quand je vous ai dit masterclass, Marie-Agnès Gillot, vous avez eu un peu peur. Et vous m'avez répondu, j'ai pas toujours les mots pour chaque mouvement, chaque déplacement. Alors je vous ai rassurée, parce que malheureusement pour le public qui est là, ça va pas être un cours de danse. Mais les masterclass sur France Culture, c'est une collection qui a envie de comprendre comment l'artiste travaille, comment il fabrique, comment il en est arrivé là, les raisons. Et on va essayer de comprendre ça, même si dans votre parcours, il n'y a pas grand-chose de raisonnable, Marie-Agnès Gillot. Vous êtes danseuse étoile et chorégraphe. Il a fallu beaucoup de dérogations dans votre vie. Vous allez plus vite que prévu, et ça depuis le début. Vous êtes de ceux qui font recommencer le monde à zéro en imposant leurs règles à eux. Dans le vôtre, à 12 ans, on grandit de 12 cm. On dit non aux médecins quand ils veulent vous mettre une barre de fer dans le dos. On résiste à un corset. Vous avez grandi à Caen. À 9 ans, vous intégrez l'école de danse de l'Opéra de Paris. À 14 ans et demi, le corps de ballet, alors que normalement on n'y entre que quelques années après. Vous dansez pour Maurice Béjart, William Forsythe, et un soir de mars 2004, vous avez 28 ans, vous êtes nommée étoile du ballet de l'Opéra de Paris, et vous êtes la première à l'être après une œuvre contemporaine, c'était Signe de Caroline Carlson. Très vite, vous en avez eu assez de danser avec les fantômes. Vous aimez le répertoire, évidemment, mais vous aimez les vivants, la création contemporaine, être à l'origine du mouvement, et vous avez interprété les grands rôles des créations d'Angelin Préjlocage, Caroline Carlson, Roland Petit, Matzek, Wayne McGregor, et puis vous êtes mise à l'écriture chorégraphique. Vous vous dites disciple de la danse, mais vous êtes une danseuse qui vit, qui a un enfant, qui accouche et qui se remet à danser avant le temps autorisé. Vous avez un corps qui n'est jamais rentré dans les cases, toujours un peu trop ceci, trop cela, trop grand. Un corps qui ne sait pas vraiment répondre aussi quand on lui dit « repose-toi ». Dans son roman Cendrillon, Éric Reinhardt vous décrit « La physionomie de Marie-Agnès Gillot, la longueur inhumaine de ses membres, démultiplie la colère de Médée. Ses bras sont des cisailles, des pales d'hélicoptère qui se désaxeraient, s'affranchiraient de leur rotor et deviendraient des bras qui décapitent, guidés par l'écriture heurtée du chorégraphe. » Marie-Agnès Gillot, il réagit comment votre corps au repos? Est-ce qu'il connaît le repos?
Oui, il connaît le repos. Mais le repos, on peut se reposer aussi en travaillant. Hein. Le travail, ça fait pas de mal. Repos, c'est pas le non-mouvement. Le repos, pour moi, ça peut être que de travailler un petit peu plus calmement que d'habitude. Mais pour moi, le repos, c'est pas allonger dans un lit, rien faire, quoi.
Alors, on va parcourir votre itinéraire, Marie-Agnès Gillot. Si on y pense comme ça à ce parcours, il y a une quête de beauté, de grâce, souvent collée à de la contrainte, la souffrance aussi. Il y a une histoire de l'effort et de la discipline dans la famille, parce que votre mère Solange grimpait.
Oui.
Escaladait.
Escaladait, ouais. C'est une des premières femmes à avoir fait de l'escalade avec des hommes. Enfin, avec les hommes, c'était un sport essentiellement masculin. Et elle a ouvert des voies, voilà. Et donc, quand j'étais petite, je voyais le piolet, le cordage et tout. C'est un peu bizarre, quand même.
Est-ce que c'est elle qui vous a donné cette idée qu'il n'y a pas de limite, déjà, à ce moment-là?
Oui, il n'y a pas de limite, c'est sûr. Mais dans ma famille, personne n'a de limite, donc je ne suis pas la seule. Mais c'est surtout que non, le non-jugement, en fait, de faire ce qu'on veut, quoi. Parce que chez moi, c'est pas très bien vu, la danse, quoi. C'était pas un métier, déjà, pour eux. Donc... c'était plus qu'est-ce qu'elle va faire à Paris, elle va annoncer, mais et ma mère, elle m'a laissé faire parce que elle était déjà très très open mind, quoi, très ouverte.
Vous parlez beaucoup de résistance, il y avait un arrière-grand-père résistant.
Oui, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Ouais. Ouais.
Et ça, c'était important dans votre imaginaire d'enfant.
En général, les résistants, c'est un peu des taiseux, donc on ne sait pas tout de suite qu'ils sont des résistants. Mais c'était juste, en fait, dans des situations de vie, en fait, je me surprenais parce que je lâchais pas, quoi. Je lâchais pas le morceau et je me disais, mais d'où ça vient? C'est pas possible, cette résistance psychologique et physique qui me font pas plier, me font pas flancher. Et après, en fait, mes parents m'ont expliqué, mes grands-parents, mais c'était vraiment sur le tard, quoi. C'était quand j'étais petite, je le savais pas, en fait.
Et comment elle est née, cette idée de la danse, dans votre corps d'enfant, justement, à 5 ans? Parce que vous l'inventez, ce métier-là, comme il n'existe pas dans votre famille?
Ben non, je l'invente pas, parce que quand je commence la danse, je commence la danse classique, donc c'est très très codifié. C'est voilà.
Mais comment à 5 ans vous avez l'idée de faire de la danse?
Ah non non, bon, j'ai pas eu l'idée. C'est parce que je mettais les pieds sur les tables et je marchais sur demi-pointe. Donc du coup, ma mère elle m'a dit, si tu veux faire ça, je crois que ça s'appelle la jambe sur la barre en cours de classique. Donc ça serait mieux que tu ailles parce que voilà, je faisais ça à la maison, je marchais sur demi-pointe. Mais je vois mon fils, il fait la même chose. Donc il a 3 ans, je suis là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des prédispositions, je dirais.
Et à 7 ans, vous le formulez?
À 7 ans, oui, parce que j'étais déjà follement amoureuse de la danse. Et donc, j'ai dit à ma classe de CE2, j'ai dit que je savais exactement ce que j'allais faire, j'allais être danseuse.
Et qu'est-ce que ça a changé de le formuler comme ça devant un public?
L'annoncer? C'était juste que j'avais... Je permettais de le savoir aux autres, en fait, parce que moi, j'avais déjà décidé, certainement, depuis un petit moment aussi.
Est-ce que vous croyez en la vocation?
Ah oui, bien sûr.
Est-ce qu'à 7 ans, quand vous dites « je veux être danseuse », c'est déjà lié à l'idée qu'il va falloir être la meilleure?
Non, parce que quand on est enfant, on ne sait pas qu'il faut être la meilleure. Et on ne sait pas non plus qu'on aura plus de liberté, plus de choix, plus de temps, si on est étoile, en fait. C'est la position qui fait qu'on a plus de temps, on travaille à part, donc on n'a pas des 3 heures et des 3 heures, et on n'enchaîne pas des heures et des heures de répète, on répète de notre côté, et après on rejoint le groupe, le corps de ballet. Mais, je me formulais pas, je veux être la meilleure, je voulais juste être danseuse. Mais, après c'est vrai qu'on est quand même très très vite dans la compétition, donc on s'aperçoit tout de suite qu'il faut être la meilleure.
Et on s'aperçoit aussi, quand on a 14 ans et demi, qu'on intègre le corps de ballet à l'Opéra de Paris, donc on l'a dit un peu plus tôt que la normale, qu'on met un trait sur pas mal de choses, de son adolescence, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez l'impression déjà à 14 ans et demi de faire don de votre corps et votre vie à la danse? Est-ce que vous le formulez comme ça?
Non, parce qu'on est, enfin, moi, je suis tellement passionnée que c'était pas rien de m'intéresser dans ce que faisaient les autres de 14 ans et demi, quoi. Ouais, ça, j'avais pas du tout, j'avais pas envie du tout de traîner, j'avais pas envie du tout de sortir, Non, j'avais envie de danser, c'est tout. Donc, maintenant, je fais plus ma crise d'adolescence. Maintenant, quoi.
Elle ressemble à quoi?
Bah, maintenant, j'arrive à sortir.
Et à l'époque,
mais quand j'étais jeune, pas du tout, quoi.
À 14 ans et demi, c'est beaucoup de solitude aussi. D'habiter, vous allez chez Madame Beaumont dans un internat, et puis après vous habitez toute seule dans un appartement. Ces moments de solitude, peut-être d'ennui aussi, qu'est-ce qu'ils apportent peut-être à la créativité ou aux rêves qu'on se forge quand on est adolescent?
Bah, la solitude quand on a 14 ans, c'est très dur. Maintenant, la solitude quand je suis à mon âge, j'adore, quoi. C'est juste, je vais pas la rendre. Je la garde. Je préfère être seule. Mais quand on a 14 ans, c'est aussi le moment où on a le temps de, comme on s'ennuie, il faut s'ennuyer pour être créatif. Donc, c'est aussi un espèce de cercle qui vous permet de vous ennuyer, de réfléchir, et de faire passer le temps pour moi, c'est un processus aussi.
Est-ce que vous avez pensé à un moment donné faire une autre forme d'art, parce que les médecins, quand vous êtes adolescente, vous demandent d'arrêter la danse?
Oui. Ben non, ça va pas être possible. Non, ça va pas être possible. J'ai fait de la natation à haut niveau, je faisais tous les week-ends de la rééducation pour mon dos. Je
ne
prenais pas de cours de danse,
scoliose,
par exemple. Tous les week-ends, normalement, les élèves de l'école de danse, ils prennent des cours. Moi, je prenais des cours de rééducation et de la natation, quoi. Donc, c'était pas super sympa, quoi.
Mais jamais vous vous êtes dit, je vais faire du chant ou je vais écrire. Il y a aucune autre forme d'expression qui aurait été possible.
Mais en fait, les autres formes d'expression, je les ai aussi en moi. En fait, j'écris depuis l'âge de 15 ans. Je chante. Bon, après, c'est pas des choses qui sont vues du grand public, mais c'est des choses que je fais. Mais c'est pas ma passion première.
Et vous dites non au médecin. Vous portez un corset pendant 5 ans, de 12 ans à 17 ans. Vous l'enlevez que pendant les cours de danse, 3 heures par jour. Est-ce que ça forge quel rapport ça à son art, à la danse? C'est forcément un, On est forcément dans la lutte, dans la résistance.
Bah non, pas que, mais c'est surtout qu'en fait, on a une conscience très vite que le temps de liberté sans corset est vraiment très très important. Donc on va pas perdre de temps au temps où des fois je pouvais faire style, oh j'ai pas compris l'exercice ou j'ai pas compris la correction, on va attendre qu'elle me le redise une autre fois. Là, on va tout de suite droit au but parce que quand on a que 3 heures de liberté par jour, on en profite bien. Et après, la souffrance, c'est pas une souffrance, on est contenu dans un objet qui fait mal, mais c'est pas. Après, on s'habitue à tout, hein, vous savez.
Mais est-ce que vous avez gardé cette chose qui fait que dans le travail, il y a toujours un moment de lutte et un moment de libération? Quel moment où on danse?
Ouais, je lutte pas trop, en fait. C'est juste que je lâche pas, en fait. Je sais pas si c'est. Mais je donne pas, voilà, je suis pas dans la lutte, je donne pas des coups, je suis pas quelqu'un qui. Par contre, j'endure très, très. Plus facilement que les autres, ouais. J'endure. Et après, je donne.
Et pourquoi les gens ne le savaient pas, ou peu, à l'époque, que vous aviez ce corset?
Ben, je sais pas, je connaissais personne autour de moi, j'avais jamais vu quelqu'un avec un corset, c'était vraiment. Maintenant, bon, c'est quand même assez courant de voir des scolioses ou des gens qu'on dans la rue, on voit, mais moi, j'avais jamais vu, donc pour moi, c'était vraiment le vilain petit canard. J'étais là, qu'est-ce que c'est que cet objet, quoi. Puis ça fait du bruit, c'est pas saillant, c'est vraiment pas chouette. Hein.
Et à l'intérieur de la discipline, vous prenez du plaisir à ce moment-là?
Ah, moi, j'adore la discipline. J'adore. Moi, j'adore prendre le cours le matin. J'adore faire la barre. J'aime la danse, mais du début à la fin. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas que juste me produire. J'aime faire des pliés, des dégagés, des rangs de jambes tous les jours. Je ne suis toujours pas lassée de la base.
Et toujours à ce moment-là, quand vous êtes dans le corps de ballet, adolescente, l'adolescence, c'est un moment, et l'opéra, c'est un lieu où on n'a pas forcément envie d'être différent des autres. Et on vous a toujours dit que vous étiez un peu différente. Comment vous faisiez avec ça?
Bah moi, je supportais pas qu'on me dise ça. Moi, je me voyais pas du tout différente. Donc, c'est très bizarre quand on est jeune et qu'on est, on n'a pas encore la maturité de comprendre ce que les gens essayent de vous faire passer. On m'a dit beaucoup, beaucoup de phrases dans mon adolescence, que je ne comprenais pas. Voilà, que j'étais différente ou que j'étais pas à la hauteur de ma beauté. Pardon, on peut pas se sentir belle quand on porte un corset, on peut pas. C'est des choses, les gens me disaient des choses en avance de ce que j'allais être, et c'était pour moi c'était un peu difficile parce que j'étais pas prête à les entendre encore.
Et dans votre esprit, il ressemblait à quoi votre corps à ce moment-là?
Bah comme les autres, quoi. Mais non, je voyais pas la différence. Je voyais la différence par rapport à la force. Mais par rapport à la forme, je ne voyais pas la différence.
Est-ce que la création contemporaine, ça vous a permis dès très tôt, parce qu'à 15 ans et demi, je crois, vous, avec Daniel Larrieux, vous dansez Attentat Poétique. Est-ce que ça vous a permis un nécessaire relâchement par rapport à quand même cette discipline de la formation classique? Ou qu'est-ce que ça vous a apporté en tout cas?
Ah bah c'était le choc des cultures. Parce que moi, j'avais juste fait du classique et puis une année de Martha Graham. J'avais vraiment pas de connaissances en contemporain. Et Daniel Larrieux, c'était quand même déjà une grande technique contemporaine sur la respiration, le sol, la conscience de l'espace, tout ça. Et donc j'étais complètement perdue, quoi. Je me rappelle très bien de faire des séances allongé au sol de méditation, j'étais là où je suis. C'est juste à 15 ans, on a envie de faire des pirouettes, des trucs, des sauts et tout. Et là, c'était pas du tout ça, quoi.
Et comment on entre alors dans cette danse-là, dans une autre technique?
Daniel Larrieux, c'est un grand pédagogue, donc il était hyper gentil, hyper calme. Il prenait le temps d'expliquer pourquoi, en fait, avec ça, on allait arriver à... Et c'est vrai que tout de suite, j'ai compris que je pourrais me servir de toutes les techniques contemporaines pour améliorer mon classique, en fait. Parce que les danses, en fait, on peut s'aider de toutes les techniques pour l'accentuer et l'améliorer.
Est-ce que c'est à ce moment-là où vous avez eu l'excitation, justement, de la création, de se dire, C'est super d'être au début de quelque chose, que le ballet commence avec soi et qu'on puisse imprimer sa signature et sa marque à une création.
Non, j'ai pas tout de suite pensé à la création, mais en tout cas, c'est en contemporain, le chorégraphe vous demande souvent de participer à la création. Donc vous devez proposer un langage, vous devez proposer des pas, une forme. Donc on est tout de suite mis dans l'action de commencer à créer sur soi, quoi. Donc forcément, c'est certainement les premiers pas du cheminement jusqu'à la création. Mais d'abord, on sert les autres dans la création. On sert le chorégraphe.
On va parler de Caroline Carlson. Avec elle, vous dites « j'ai appris l'improvisation », justement. Comment ça s'est passé? Comment on fait pour oublier ce qu'on a appris pendant 20 ans de techniques classiques pour s'ouvrir à l'improvisation?
Ça va être difficile à expliquer. Mais c'est justement, c'est un état, en fait. Il n'y a plus de barrière. C'est une grande concentration. C'est un grand ressenti. Et donc, en fait, voilà, on part. C'est le corps qui part. On laisse parler les sensations, les actions. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de regard sur soi, je veux dire. Mais par exemple, c'est très très difficile, par exemple, d'improviser en classique. Très rarement, les danseurs classiques savent improviser. Mais là, même en classique, ils savent pas. On peut pas. En fait, c'est pas le même procédé. C'est hyper difficile. Alors que, avec des lignes beaucoup plus poétiques et beaucoup plus linéaires, on arrive à enchaîner des mouvements. Alors qu'en classique, il faut préparer toujours le prochain mouvement dans sa tête et dans son corps. Donc quand on est en improvisation, c'est plus difficile, quoi.
Et c'est quoi les tics, entre guillemets, du classique qu'on a dans le corps?
Les tics?
Pas les tics, mais peut-être les mouvements tellement répétés, appris, qu'on a du mal à s'en défaire. Même quand on est dans un travail d'improvisation.
Non, on arrive à s'en défaire, mais c'est juste que les danseurs classiques, souvent, ils ont un haut du corps qui est très très raide, puisqu'en fait, pour s'élever, du coup, on a une cage thoracique, on a des abdos et un dos très très en place. Alors qu'en contemporain, on est toujours dans la mouvance de la cage thoracique, du ventre, des bras, des côtés, des ondulations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout en classique, alors qu'en fait, on pourrait s'en servir, parce que les micro-waves, ça donne de l'émotion en plus, mais on s'en sert pas, parce que on nous a appris ça. Mais tic, je sais pas, c'est juste que c'est une espèce de tenue qu'on a, qui est un peu raide.
Et votre corps, il a changé avec ce nouveau travail, avec le travail contemporain et d'improvisation?
Non, mon corps, il change suivant les chorégraphes avec lesquels je travaille. C'est-à-dire Matsek, je prends des cuisses, je prends des mollets, le classique, je deviens toute maigre, c'est parce qu'on s'étire. Donc c'est le corps, il se sculpte suivant l'œuvre que je travaille. Mais parce que j'ai toujours des courbatures, c'est-à-dire que des personnes m'ont demandé, mais tu as toujours des courbatures? C'est-à-dire à chaque fois que je travaille une œuvre, c'est rebelote, j'ai mal partout, quoi. Toute la chaîne musculaire va être dans une autre forme, dans une autre hiérarchie. Donc du coup, c'est à chaque fois, c'est la même chose. C'est pendant une semaine des grandes courbatures, et puis voilà, après ça, le corps a de nouveau emmagasiné, quoi.
Et comment on fait pour trouver des nuances dans une pièce qu'on a jouée des centaines de fois, comme par exemple Signe de Caroline Carlson? Comment vous faites pour chaque fois, chaque soir?
Je me mets dans un état où je n'ai jamais dansé la pièce. À chaque fois, c'est un recommencement, c'est une naissance. Si je me programme en disant ça, je l'ai fait comme ça hier, je vais le faire comme ça. Non, en fait, je me propose en scène. Fraîche. Je n'ai jamais rien dansé. C'est tout nouveau. J'arrive. Si je peux pas me mentaliser comme ça, sinon c'est pas possible, quoi. Et puis surtout que du coup on prend plus de risques si on pense comme ça.
Avec ce spectacle, Signe de Caroline Carlson, le 18 mars 2004, vous êtes nommée étoile au Ballet de l'Opéra de Paris. C'était important pour vous. Vous avez 28 ans. Vous dites parfois que ça avait un peu tardé. Pourquoi c'était important? Quelle liberté on gagne quand on devient étoile?
Moi, c'est c'est pas de ma faute, c'est la hiérarchie, c'est l'institution. C'est-à-dire que c'est comme ça, en fait, c'est la reconnaissance, même si on a la reconnaissance du public, de ses pairs, on attend que le titre. Parce que c'est à partir de là qu'on sera plus libre. Mais aussi pour les gens qui vous regardent. Si vous dites vous êtes première danseuse, mais même si vous êtes la meilleure, mais vous êtes première danseuse, vous n'avez pas le titre. Et c'est pas le même regard. Si vous dites vous êtes étoile, c'est différent. C'est absurde, hein, mais c'est comme ça, ça marche comme ça. C'est une institution, l'opéra.
Donc vous attendiez ça?
Oui, enfin juste pour le papier, quoi. Ça n'a rien changé dans ma tête, mais c'était juste que du coup, voilà, la mise en place des répétitions, tout ça, c'est différent. C'est beaucoup plus agréable de travailler. C'est moins difficile, les horaires sont moins contraignants, voilà.
On parlait de discipline. Une grande danseuse qui a été votre répétitrice, Ghislaine Tesmar, disait qu'il y a un régime totalitaire dans votre tête. C'est vrai, ça?
Je ne comprends pas du tout.
Ça ressemble à quoi, cette méthode de travail totalitaire?
Je ne sais pas, moi, ce qu'elle veut dire. Ah, disons que je fais une chose totalement à la fois. Non, mais je sais pas ce que ça veut dire pour elle, mais je pense que c'est mes extrêmes, quoi. C'est ma concentration, mon caractère. Moi, je pense que tout est possible, donc déjà, c'est difficile pour les autres.
Et on peut tout vous demander. Un chorégraphe peut tout vous demander.
Ah, c'est le but du danseur, on est quand même la pâte à modeler, on est l'interprète. Si on commence à avoir des états d'âme, non, je peux pas faire ça, non, je peux pas faire ça. Non. Le chorégraphe, il est pas très à l'aise quand même.
Vous parliez de votre travail avec Wayne McGregor en disant que vous avez exploré des postures contre nature, enfin des choses très radicales avec votre corps. Pourquoi vous avez envie d'aller dans ces endroits-là? Qu'est-ce que ça vous fait découvrir?
Ah, moi, j'ai pas envie, hein, c'est lui qui me demande.
Mais parce que vous ajoutez, je suis un peu kamikaze, donc ça me plaît.
Ouais, mais c'est aussi une danse. Je vois pas pourquoi j'aurais un jugement sur des positions qui sont plus ou moins esthétiques ou pas. C'est pas mon rôle de juger ce que je vais danser. C'est à vous d'aimer ou pas aimer. Et puis, je trouve ça aussi pas vraiment vrai de dire que les positions sont certainement plus belles que d'autres. Ça dépend. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie non plus de la beauté de la position. C'est des danses différentes. Mais c'est vrai que Wayne, il vous met dans des postures, c'est un peu difficile des fois.
Si on s'attarde un peu, Marie-Agnès Gillot, à la façon dont on prépare un rôle, peut-être qu'on peut parler d'Eurydice dans l'opéra Danser Orphée Eurydice que vous avez dansé en 2005, que Pina Bausch est venue transmettre à l'Opéra de Paris. Comment vous préparez, même avant même que les répétitions commencent, un rôle comme celui-là?
Non, avec Pina, on n'a pas besoin de préparer en avance. Parce qu'elle va bien nous préparer. C'est pas quelqu'un qui nous laisse une seconde ou un doute. Non, on se prépare pas. On commence d'abord par apprendre la musique, le texte, l'opéra. Et après, on commence à apprendre les mouvements avec les protagonistes, donc avec Malou et Dominique.
Et Dominique Mercier et
oui,
Malou et
les créateurs de en général, Pina, elle donnait les danseurs qui avaient créé le rôle. Ce qui est vachement intelligent parce que d'avoir le 12e qu'annoncé, la danse, elle s'est déjà transformée, du coup. Alors que là, avec les créateurs, c'est sûr qu'on aura quand même déjà plus de sûreté sur les mouvements, quoi. Mais et après en fait elle va peaufiner, elle va tout scruter, tout regarder, le même l'espace, quoi. C'est si vous dansez là, c'est là, on vous allez recommencer jusqu'à temps que vous arrivez là. Tout est vraiment très très chiadé avec Pina. Il n'y a pas que le mouvement, quoi, parce que souvent avec Pina on pense qu'il y a que les mouvements, mais non, en fait Pina elle était aussi sur l'espace, c'était fallait être à ce point-là, à ce mouvement-là, c'est-à-dire que l'architecture de l'espace, comment on danse dans un espace, pour elle, c'est très très important.
Et comment vous passez d'un mouvement à un autre? Comment vous remplissez comment vous créez cet état intérieur qu'elle demande, Pina Bausch, pour pouvoir nourrir la circulation entre les mouvements, parce que c'est pas juste des enchaînements, c'est qu'est-ce qu'on met entre ces choses-là?
Non, mais rien. On enchaîne, on respire et On est ce qu'on joue. Donc, il n'y a pas à penser entre, puisque là, déjà, en fait, à ce niveau-là, on ne fait plus des mouvements après mouvements, on fait déjà des phrases. C'est quand on commence qu'on fait des mouvements. Les grands danseurs, ils ne font pas des mouvements, ils font des phrases. Bah, c'est comme un comédien, s'il parlait mot pour mot, ça ne serait pas terrible, quoi. Donc, du coup, on est déjà beaucoup plus loin dans le cheminement de la danse, quoi.
Et que quand vous avez commencé avec Pina Bausch, vous vous dites, j'avais l'impression de plus savoir danser.
Ah ouais, moi je.
Pourquoi?
Parce que elle vous recommencez tellement de fois que je savais plus comment je m'appelais à la fin.
Et comment on retrouve son chemin?
Ça rien. C'est de perdre pied, perdre pointe, je sais pas, pour mieux se retrouver, quoi. C'est sa technique.
Et qu'est-ce qu'elle savait, Pina Bausch, de vous que vous ne saviez pas?
C'est dur comme question, ça.
Qu'est-ce que ce travail-là a pu révéler, peut-être, parce que c'était un travail très particulier?
Oui. Avec Pina, c'est quand même mes premiers rôles très, très dramatiques, quoi, très, très tristes. Par exemple, les crises de froid, les crises de tremblement, les choses comme ça, vous faites rarement ça en classique ou dans les... Donc, c'est quand même des choses qui se passent dans la vie de tous les jours, qu'on a comme effet, mais qu'on fait rarement en scène. Donc ça, c'est des états que j'avais jamais joué, quoi. Et ça, c'est très impressionnant, tout d'un coup, de faire une crise d'angoisse ou de faire une crise qui est dans la chorégraphie, quoi. Mais faut le jouer, quoi.
Est-ce que les indications de Pina Bausch, par exemple, ça peut être « Je veux sentir le poids du chagrin d'amour dans vos vies ». C'est pas rien, ces états-là, justement.
Enfin, moi, je me souviens pas qu'elle parle comme ça. Chaque interprète avait son propre rapport avec Pina, quoi.
Comment vous trouviez ces états-là?
Alors moi, elle me donnait rarement des conseils artistiques. C'était le mouvement qui apportait l'état et qui apportait donc le jeu et le rôle. C'était pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on va pas mettre « Ah bah je vais jouer comme ça sur un pas ». Non, c'est le pas qui amène le mouvement, qui amène le jeu et qui amène l'état. Et donc, elle a raison. Elle a raison. Elle a raison, complètement.
Et vous parlez souvent de mémoire visuelle. Est-ce que ça vous arrive de vous filmer?
Ah bah oui.
Pour travailler le rôle?
Oh oui, on fait tout le temps ça maintenant. C'est très pratique avec les iPhones. On le porte et puis on le met par terre et on se filme tout le temps. Comme ça, on regarde tout de suite si c'est bien fait, si c'est bien exécuté, ce qu'on veut corriger, ce qu'on veut nettoyer. C'est fait pour la danse, en fait, les iPhones.
Et vous regardez souvent les vidéos d'autres danseuses, d'autres...
Oh, j'ai fait que ça. Quand j'étais jeune, je regardais tout le temps. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est drôle parce que nous, enfin moi, ma génération, pour s'augmenter, pour s'éduquer et tout ça, il fallait vraiment avoir envie d'aller regarder toutes les vidéos qu'il y avait à la Fnac, les trucs américains, qu'est-ce qu'il y a comme danseuse, comment elle fait ça, comment elle fait ça, et de déguiser son goût et tout ça. Maintenant, c'est vous tapez tac tac tac. Alors qui c'est que je préfère? Non, c'est dingue comme maintenant c'est hyper, l'accès est hyper facile, quoi.
Et ça, c'est important, la préparation d'un rôle.
Ben, pour moi, c'est important. Parce que moi, tant que j'ai pas décidé ce que j'aimais faire, on va pas décider pour moi. Donc, et le goût, c'est très, très important, en fait. C'est ce qui fait la beauté de l'artiste, quand même. Normalement, il doit tout décider de ce qu'il va interpréter. Si j'ai envie de faire un passé là, ou un passé là, ou un passé là, je l'aurais décidé. C'est pas comme ça dans les airs, ça va se passer tout seul, non. Tout est décidé, quoi. Et c'est vrai que ma génération, il fallait vraiment qu'on se motive pour trouver ce qu'on aimait faire et regarder les autres. C'était des heures. Alors que maintenant, je trouve que l'éducation est vachement plus flash, quoi. On tape, on regarde et c'est bon.
Et vous avez un regard bienveillant sur vous-même quand vous regardez, quand vous vous regardez danser, quand vous travaillez?
Ça dépend. C'est bon, bienveillant, ouais, mais en tout cas, je me mens pas, quoi. Je peux dire, là, c'est nul, ça, Marie. Ça va du tout, ça. Mais bon, ça va, quoi. C'est bienveillant, non?
Est-ce qu'il y a des regards extérieurs auxquels vous faites particulièrement confiance?
Oui, mais pas beaucoup.
À qui?
À des danseuses que j'ai aimées, comme Florence Claire, Pina, Caroline, Carlson. Très peu de personnes, en fait. Il y a très peu de personnes qui vous disent la vérité. Et c'est surtout sans apporter ce qu'elles aiment. Parce que sinon, en général, les coachs ont tendance à faire ce qu'elles ont fait sur vous. Moi, je supporte pas ça. C'est pas comme ça que d'être, c'est pas ça la pédagogie. La pédagogie, c'est de laisser l'interprète trouver sa danse et son identité. Si on vous mâche le travail, bien sûr, c'est vachement plus facile. Mais c'est pas très intéressant, je trouve. Parce que vous allez avoir la redite 20 ans plus tard d'un tel, en fait.
Et à quel moment vous savez que vous avez trouvé? Que ça y est, le rôle, que c'est prêt, que c'est... Oh,
je sais pas si c'est trouvé, hein. Nous, on est toujours dans la recherche. C'est juste que bon, ça me plaît. Bon, pas ça me plaît. Après, d'être vraiment contente de soi, je sais pas.
Est-ce que le corps, il garde la mémoire du mouvement? Parce que Orphée Eurydice, vous l'avez repris 10 ans plus tard, presque.
Oui, oui.
Est-ce qu'il a tout en mémoire?
Oui, oui. Toujours. Mais j'ai la mémoire par rapport à la musique. C'est-à-dire que là, si vous me dites « fais la variation du quatrième axe », je suis là. Vous pourriez mettre la musique? Là, ça va partir tout de suite. Mon corps va partir sur la musique dans le... C'est la mémoire physique. Mais c'était très drôle aussi dans les Gisèles, quand je dansais Gisèle classique et Gisèle... Il y avait une série à l'opéra comme ça, à un moment, on faisait un soir classique et un soir contemporain. Comme moi, je dansais les deux, j'avais le corps qui partait... J'étais là, oula. Là, c'est classique aujourd'hui, Marianne, c'est pas contemporain. C'était très drôle, quoi. J'avais ça partait, quoi.
Et c'est quoi la force de l'esprit sur le corps? Parce que parfois, je crois, avant Orphée Eurydice aussi, vous étiez blessé au genou.
Oui.
Enfin, en tout cas, souvent, dans votre parcours, un médecin vous a dit ça va pas être possible. Et à chaque fois, vous avez dit, en fait, si, ça va être possible. Et votre corps s'est remis à temps et plus vite que prévu.
Non, mais quand je vais voir un médecin, je lui dis, c'est quoi la possibilité? Il me dit, c'est 3 semaines. Je lui dis, ça va pas être possible. 3 semaines d'arrêt? Non, ça va pas être possible. Est-ce que vous connaissez un athlète ou un artiste qui a fait... Il me dit, oui, je connais un rugbyman qui a réussi à remonter en 8 jours. Je lui dis, moi, j'ai que 5 jours, ça va être possible. Et donc, voilà, et après, du coup, je programme avec le médecin ou le docteur, je vais faire ça. Je vous préviens, je vais faire ça. Donc, je me suis fait opérer. Le lendemain matin, j'étais en piscine avec les pansements waterproof, là. Et j'avais les points de suture sur scène, mais 5 jours après, j'étais là.
Quand vous préparez un rôle, vous dites, je pose des questions jusqu'à ce que j'obtienne des réponses qui me permettent de danser. Elles sont faites de quoi, ces réponses qui vous permettent de danser? Est-ce que c'est... Vous avez besoin d'être nourri de mots, d'images, de...
C'est différent à chaque fois, mais en général, oui, plutôt de mots et de musicalité aussi, surtout. En fait, tant que je suis pas à l'aise musicalement dans une variation, dans un rôle, je ne suis pas contente. Je le sens pas, en fait. Il y a encore des endroits où de doute ou de non-connaissance où voilà, je me dis ça c'est pas encore assez bien travaillé. Il faut que je... La musicalité, c'est très très important.
Est-ce qu'il y a une façon de vous diriger que vous préférez? Vous parliez de Maurice Béjart, qui était plus à diriger avec sa voix, justement avec les mots. Vous parliez de Matzek, où là, c'était plus terrien, où il était sur scène à vous montrer les mouvements. Mmh. C'est quoi votre façon, à vous, la façon que vous préférez de travailler?
J'ai pas une préférence, en fait. J'aime travailler justement avec ces vivants, parce qu'à chaque fois, ça va être une expérience différente, ça va être une aventure différente. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, voilà, Matzek, c'est comme Pina Bausch, c'est tant que le mouvement n'est pas parfait, on recommence. Et Maurice, c'est pareil aussi, mais c'est juste que lui, il me le montre pas, en fait. Alors que Matzek, au bout d'un moment, il se lève, il vous montre le pas et il fait mieux que vous. Alors, d'accord. Et Pina, c'était pareil. Mais Pina, c'est pareil. Elle voulait pas se lever. Puis tout d'un coup, on lui demandait, vous pouvez pas me montrer le port de bras? Elle faisait juste un port de bras. On lui faisait, ah oui, d'accord, j'ai compris. C'est ça. Voilà, c'est la différence. Et Maurice, comme moi je l'ai connu plus tard, il était déjà plus danseur, quoi, en fait. Donc il me parlait, mais c'était pareil. C'est Maurice, alors, lever le bras sans bouger l'épaule, il me demandait des choses, j'étais là. Mais ça, je savais même pas que c'était possible, quoi. C'est... Donc, et en fait, c'était possible.
Est-ce que d'une pièce à l'autre, les sentiments se répondent parfois, ou est-ce que le corps a besoin, après une œuvre, de danser? Par exemple, est-ce qu'après avoir joué Médée, ça fait du bien de se sentir aimé dans La Belle au Bois Dormant? Ou est-ce que est-ce qu'il y a des liens comme ça pour le corps et pour vous?
Non, non, non. Il y a certains rôles qu'on a du mal à laisser au théâtre. Donc on part un petit peu avec chez soi. Mais en général...
Lesquels, par exemple?
Bah, m'aider, par exemple, de tuer les enfants à la fin sur scène, c'est pas sympa, quoi. Non, il y a des choses qui sont un peu... Voilà. Mais en général, on essaye de garder tout ça pour le théâtre. Et de pas emporter ça chez soi, quoi. Donc non, j'ai pas envie de danser La Belle après-midi, quoi. Mais non, non.
Et vous disiez que votre corps, il se modèle selon les ballets. Ouais. Tout est possible. Après, on peut le modeler comme on veut. Une fois que le dos s'est assoupli, on peut, hop, tout peut s'enchaîner facilement.
Ben moi, j'ai une facilité à changer mon corps. Enfin, après, j'ai à travailler. Mais ça se voit, hein, quand même. Hein. Ça se voit vraiment, hein, que je change de... les jambes changent, comme je vous disais tout à l'heure. Ça se voit vraiment, c'est pas fiction, quoi. Mais en même temps, on est quand même des athlètes, c'est ça notre métier. Hein.
Est-ce que c'est Pina Bausch qui vous a encouragé à chorégraphier?
Oui, elle m'avait fait promettre de continuer dans cette carrière aussi, parce qu'elle me disait que c'était que j'avais quelque chose, voilà, à dire aussi là-dedans, et qu'il fallait pas que j'abandonne. J'avais déjà une espèce de patte reconnaissable, et que c'était et qu'il faut en fait beaucoup beaucoup chorégraphier, hein. Donc je continue à le faire. Je chorégraphie chaque année, tout le temps.
Parce que ça, c'est une nouvelle étape dans cette masterclass, Marie-Agnès Gillot. C'est votre travail de chorégraphe.
Oui, j'ai cru que vous l'aviez me demandé.
Alors maintenant, mais si on avait la musique, tout serait possible. Mais... En 2007, vous créez Rare Différence,
oui.
Ce spectacle. Est-ce que, enfin, d'où c'est parti? De quelle idée, de quelle image des sculptures de Rodin?
C'est ça, oui.
Et vous l'aviez en tête depuis un moment?
Oui, je pense que c'est, oui. Ça fait longtemps que je voulais travailler sur Rodin. C'est-à-dire que Rodin, c'est quand même très impressionnant. On voit les sculptures, on a l'impression de les voir bouger, quoi. C'est tellement, il y a une espèce de physicalité dans ce qu'il faisait. C'est impressionnant. Donc et c'est pour ça que je suis allée chercher des danseurs de hip-hop, parce qu'ils avaient la même ossature, la même musculature. Voilà, j'ai essayé de trouver des corps qui ressemblaient vraiment à ce que j'avais vu.
C'est étonnant, ça, pour une première création, d'aller chercher deux danseurs qui n'ont pas du tout la même culture, la même formation que vous, le hip-hop, et de les confronter aussi. Il y avait une danseuse contemporaine,
ouais,
dans le spectacle.
Julie Guibert.
Pourquoi vous avez eu envie de puiser dans leur technique, dans leur expérience à eux
Bah, c'était une proposition, de toute façon, de Olivier Meillard, Donc c'était, il fallait travailler avec des danseurs de hip-hop, mais c'est justement ce que je voulais, en fait.
C'était le festival à Suresnes.
Voilà, le festival de Suresnes, Cité Danse. Et non, mais c'était justement.
Mais en repensant à Rodin, ça a été évident que c'était ce projet-là avec ces danseurs de hip-hop.
Ah ouais, je vois absolument pas des danseurs classiques faire Rodin, quoi. Ils sont trop fins. Je sais pas si vous voyez les épaules qui, enfin, c'est. C'est hyper beau, mais c'est quand même beaucoup plus massif que des danseurs classiques, que nous, la musculature qu'on a, nous. Donc je voulais vraiment que ça soit ressemblant, en fait. Et les danseurs de hip-hop ont un torse beaucoup plus développé que nous. Parce qu'ils font des acrobaties, parce qu'ils font beaucoup plus de sol que nous. Et donc, voilà. Donc ouais, c'est presque... ce que je voyais, quoi.
Et comment vous les avez dirigés? Ils vous proposaient des choses et vous transformiez ce qu'ils vous proposaient? Ou comment vous avez, c'était une première fois pour vous de ce côté-là, de la mise en scène, de l'écriture chorégraphique?
En fait, ce qui m'intéressait au départ, c'était de rendre que le hip-hop puisse exprimer des choses comme le classique, parce que le hip-hop c'est quelque chose qui n'exprime, enfin, on s'en sert pas pour exprimer des états d'âme ou des sentiments. Et je me disais, mais comment c'est possible que personne n'ait pensé à utiliser les mouvements de hip-hop, mais à les ralentir parce qu'en fait, si vous ralentissez le rythme, ça donne des émotions, en fait. Et donc, on a cherché des mouvements, des choses, jusqu'à temps que je trouve ce que je voulais exprimer. Et ça marchait très très bien. Parce que c'est des danseurs autodidactes, mais qui ont une capacité à reproduire comme nous. Au départ, c'était difficile parce qu'ils étaient tout le temps dans l'impro et que je disais non. Il faut refaire à chaque fois la même chose. Parce que sinon, on ne peut pas arriver à ce que je voulais. Mais passer ce petit problème, la danse hip-hop, en fait, elle est capable d'exprimer n'importe quoi, en fait. Et eux s'en servent pas comme ça.
Et là, vous parlez de Rodin. Est-ce qu'il y a comme ça, dans votre parcours, un artiste, un livre que vous avez lu, une exposition que vous êtes allé voir, quelque chose qui a inspiré votre travail ensuite?
Ah, mais c'est que ça, moi. C'est une succession d'inspiration, ma vie. Donc, là, je peux pas vous dire ce que j'avais vu en 2005, c'est ça? C'est il y a trop longtemps, je peux pas vous dire. Mais c'est tout le temps comme ça. Peut-être que mamie Sylvie s'en souvient. Qu'est-ce qu'on avait été voir à ce moment-là? Je sais pas, parce que c'est ma partenaire de théâtre. Donc voilà, je sais pas ce que j'avais vu. Je sais qu'à ce moment-là, j'étais très, 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 très admirative des comédiens. C'était vraiment mon moment théâtre. Après, j'étais plus sculpture. Après, j'étais plus art contemporain. Voilà, on a des inspirations dans la vie. On est plus ça à un moment, plus ça. À ce moment-là, c'était vraiment théâtre.
En 2012, quand vous créez Sous Apparence à l'Opéra de Paris, là, vous repartez du langage du classique et de la pointe.
Oui, mais alors là c'était quand même sur un tapis qui est juste super glissant. Donc en fait, vous mettez un danseur classique dessus, il tombe. Donc c'était justement de créer toute une technique sur le risque, parce que et aussi de mettre les garçons sur pointe, parce que
garçons si et filles étaient sur pointe.
Je sais pas si vous vous souvenez de Vincent Chaillet. Il faisait une variation sur pointe. Je peux vous dire que vous demandez ça à une fille, elle est pas capable de le faire. Hein. C'est dingue. Non, mais c'était dingue. Comment il s'est approprié les pointes et la. Ouais, il faisait des. Par exemple, il faisait des trucs sur pointe que nous, on peut même pas. Il crochait ses doigts de pied et il arrivait à passer en faisant un demi-rond sur pointe. C'est un contrôle de fou ce qu'il faisait. Et donc c'était impressionnant, parce que du coup les filles et les garçons, on a pris une leçon. Enfin, je veux dire, en faisant cette pièce, on a appris plein de choses, quoi.
Et en faisant cette pièce, vous parlez du risque, mais vous parcourez aussi le thème de la contrainte,
ouais,
de la souffrance.
Ouais. Mais parce que en fait, je me suis souvent aperçue que plus on me donne de contraintes, plus on me donne de cadres, mieux je me porte. Mais il faut juste le supporter, quoi. Parce que ça permet à l'artiste, justement, de créer... je sais pas pourquoi. Quand on est contraint, quand on me donne un cadre, moi, en tout cas, ça me fait partir, quoi. Parce que je sais exactement ce que je dois pas faire. Et en même temps, je peux tout faire. Et ça, chez moi, je voulais vraiment le partager avec eux pour qu'ils comprennent, en fait, que c'est un peu comme la discipline, quoi. La discipline, mais après, vous avez une grande, grande liberté. Hein.
Est-ce que le corps, dans le corps, il y a une amnésie de la souffrance? ou pas ? Est-ce qu'il se souvient de tout ?
Non, mais moi j'oublie très très vite de toute façon. Puis en général, plus ça me fait mal, plus j'oublie. Donc, non, je me souviens pas.
Il y a quelque chose, Marie-Agnès Gillot, qui est un petit peu à part, mais dont je voulais parler aussi, c'est votre lien à la nature, à la campagne et aux animaux.
Oui.
Parce que vous avez grandi à la campagne, vous aviez un grand-père qui élevait des rouges-gorges.
Oui, enfin, c'était une volière ouverte. Donc en fait, ça aussi, ça se faisait pas. Normalement, on a une cage, c'est pas ouvert. Lui, il faisait une volière ouverte, donc tout le monde rentrait, sortait comme il voulait. C'était que des oiseaux sauvages. C'était...
Et vous avez dansé avec des cygnes.
Oui.
Dans une chorégraphie de Luc Peton.
Oui, puis j'ai un perroquet aussi. J'ai eu un perroquet.
Votre perroquet, Lucas, c'est ça ?
Lucas, ouais.
Pendant 15 ans.
Ouais.
Et alors, ce lien avec les animaux, enfin, qu'est-ce que ça vous a appris, y compris sur scène ? Jouer avec un animal.
En fait, en danse, quand on danse avec un partenaire et quand on a une grande, grande symbiose, une grande, grande osmose, on arrive à peu près à ce niveau-là qu'on a avec la nature et avec les animaux. Mais avec les animaux, c'est beaucoup plus fort. Parce que, en fait, avant que vous ayez ce rapport-là avec un partenaire, ça va mettre du temps. Avec l'animal, il vous le donne tout de suite.
Donc c'était plus simple de danser avec un cygne qu'avec un partenaire à l'Opéra de Paris.
Je dois vraiment répondre, peut-être.
Pardon, j'ai résumé de façon un peu triviale ce que vous veniez de dire.
Je vais peut-être pas répondre, sinon ils vont me donner que des cygnes comme partenaire. Pour le... non, mais c'est... C'est un peu raccourci, mais l'animal, il a quand même pas de jugement, il a pas d'état d'âme, il a pas de, vous voyez, c'est d'une pureté. Et c'est vrai que les rapports entre humains, avant que vous ayez cette pureté, ça met quand même un, voilà, c'est ce que je voulais dire, ça met un moment, quoi.
C'est une pure présence.
Voilà. Et puis l'animal, il décide pas de tout d'un coup vous posséder ou, donc vous êtes toujours à l'écoute de lui. Et ça, c'est hyper agréable, parce que moi, j'adore être à l'écoute de mes partenaires, mais j'aime bien qu'ils soient aussi à mon écoute. Et ça, l'animal, il est forcément à votre écoute. Parce que lui, il a déjà, c'est son instinct.
Et est-ce que vous avez eu l'impression de progresser toujours dans votre art ?
Ah, ben heureusement, hein, parce que sinon, c'est pas drôle si on ne progresse plus, hein. Parce que moi, j'aime toujours progresser. C'est pour ça que... Et je progresse en classique. Parce que là, c'est pas... Je vais pas dire je progresse en contemporain. Contemporain, c'est les œuvres qu'on rencontre et les chorégraphes. Mais en classique, je découvre et je recherche et je progresse toujours. Je me mets tous les matins, quand je fais une barre, je me mets des nouveaux buts ou des nouveaux goûts. Enfin, et je me dis, bon, là, aujourd'hui, je vais travailler ça... Et en force de rechercher, de répéter, on découvre toujours des nouvelles sensations.
Et le corps, il est capable de progresser toujours ?
Oui. Oui. Non, mais c'est une belle machine, le corps. Hein.
Est-ce que parfois vous repensez à une pièce et vous vous dites, j'aimerais bien la redanser, aussi pour la redanser peut-être un peu différemment ?
Non, ça j'ai pas souvent de non, ça m'arrive pas de penser j'aimerais redanser ça pour le danser mieux. Bah si je pense comme ça veut dire que j'ai raté quoi. Donc ça va pas être possible avec moi. Non.
Qu'est-ce que ça a changé le fait d'avoir un enfant ? J'en parle parce que vous en parlez par rapport au corps, à la maîtrise et au relâchement. Tout à coup, c'est pour une danseuse un moment de son corps qu'on ne maîtrise pas, ou en tout cas, est-ce que ça a modifié quelque chose dans votre rapport à votre corps et donc à la danse ?
J'ai été hyper, hyper impressionnée, quoi. Je me disais, c'est dingue. Parce que quand on commence à grossir, et puis que le bébé, on le sent, j'avais l'impression, non, mais je vous raconte une anecdote, j'avais l'impression qu'il se rangeait quand je faisais les grands battements pour laisser passer ma jambe. J'étais là, ah, il est sympa, quoi. Il est trop sympa, mon fils. Donc c'est des sensations et c'est la vérité, quoi. Quand je faisais les grands piliers, j'avais l'impression qu'ils faisaient comme ça dans le ventre. Et c'était déjà une espèce de dialogue qu'on avait ensemble. Et dès qu'il est sorti, c'était pareil, quoi. C'était l'osmose totale, quoi. C'est vraiment incroyable, la naissance et la maternité et la maman, enfin la vie de mère, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment... je suis épatée tous les jours, quoi.
Et redanser après ce court moment où vous avez arrêté?
Oui. Alors oui, j'ai redansé 5 semaines. J'ai repris l'entraînement 5 semaines après l'accouchement. J'étais en scène 3 mois après. Et là, c'était très bizarre parce que... je levais très très haut les jambes devant, beaucoup moins bien à la seconde, et alors plus du tout derrière. C'est-à-dire que j'avais le dos qui était devenu une barre de fer. Je disais, aïe, ça c'est pas très drôle. Et donc il a fallu tout retravailler pour que tout se reprenne son élasticité, quoi. Mais c'était très bizarre de voir comment mon corps avait gardé des choses et pas d'autres, et alors des positions, mais alors absolument qui n'existent plus dans mon corps. Je ne peux plus faire une arabesque, d'accord. C'est quand même impressionnant, et ça revient après.
Dans vos pas de côté, Marie-Agnès Gillot, il y a le dialogue avec des écrivains. Parce que vous avez travaillé avec Lola Lafon, Éric Reinhardt, vous avez dansé une lettre de Sophie Kahl. Pourquoi il est... Qu'est-ce que ça vous apporte, ce dialogue avec eux et avec leur écriture?
Pour moi, c'est une aventure comme une autre. Moi, l'écriture, j'adore l'écriture. J'écris depuis que je suis toute petite.
Et vous écrivez quoi?
J'écris de la poésie.
Et vous la faites lire?
Bientôt.
C'est vrai?
Oui, c'est vrai.
Donc quelque chose va paraître.
C'est oui, vous avez... Surprise.
Un nouveau chapitre dans une masterclass. Marie-Agnès Gillot, écrivain.
Oui.
Poète, d'accord.
Donc en fait, pour moi, l'écriture, pour moi, c'est vraiment comme de la musique. Hein. Il y a une mélodie, un phrasé, donc c'est vraiment la même base et c'est hyper. Moi je trouve toujours impressionnée de voir des écrivains, ça sort de leur tête. Moi ça sort plutôt de mon corps en général. Et donc pour moi il n'y a pas vraiment de différence en fait entre une musique et un écrivain. Entre une base de musique, donc une forme où je vais m'appuyer sur une forme musicale ou une forme de voix qui raconte un texte où il y a un son, une mélodie, c'est pareil.
Est-ce que vous écrivez, ça a un lien avec la danse?
Non, j'écris pas sur la danse.
Vous écrivez sur quoi?
Je sais pas moi, sur tout. Parce que je change de thème tous les jours, tous les soirs. J'écris tous les soirs, donc...
Tous les soirs depuis ce moment de l'adolescence où vous vous êtes mis à écrire?
Oui.
Et que de la poésie?
Oh non, au départ... on commence toujours avec un petit journal intime, en général. Je rigole. Mais non, on commence... Et après, je sais pas pourquoi je suis partie sur la poésie, mais... C'est ce que j'aime, en tout cas.
Vous qui n'aimez pas beaucoup les règles, Marie-Agnès Gillot, ça vous énerve cette règle qui fait qu'il faut partir à la retraite à 42 ans et que le 31 mars 2018, vous devez être à la retraite?
Oui, je trouve ça nul. Pardon. Non, j'ai pas du tout envie de partir, mais bon, il faut partir. Enfin, il faut partir, je reviens la semaine d'après.
Hein.
En guest, donc ça va aller. Donc je reste avec vous jusqu'en juin, quoi. Mais non, je trouve pas ça bien, moi. Je trouve que les corps qui sont en forme, on devrait les garder. Les corps qui sont abîmés, on devrait les mettre à la retraite. Mais on n'est pas tous égaux, hein, sur la physicalité, la souplesse, les capacités. Personne n'est pas. Et encore, on s'améliorait parce qu'avant, les filles, c'était 40 ans et les garçons, 45. Donc à 40 ans, on était déjà partis. Maintenant, c'est 42 et demi pour tout le monde.
Mais même cette idée-là, elle est étrange, parce que pour un artiste, la retraite, ça ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, vous allez évidemment faire énormément de choses, donc ce n'est pas du tout la fin de votre travail, mais c'est la fin d'une époque, d'un quotidien.
Oui, c'est la fin de... Ben, c'est quand même la fin de ma carrière à l'opéra, quoi. C'est ça, en fait. Et ça, c'est pas la fin de ma carrière, c'est la fin de ma carrière à l'opéra.
Et des règles, vous en avez beaucoup modifiées dans votre vie, celle-là, c'était pas possible de la modifier ?
Bah si, elle aurait dû être modifiée, mais là non, plus maintenant.
Est-ce que vous allez toujours le vendredi soir au tango pour danser la valse
Non,
malheureusement. Avec des amateurs Plus
non.
Le temps.
Mon fils, il me dit pas danser, donc je reste.
Et pourquoi vous alliez faire ça à une époque ?
Parce qu'il y a des grands danseurs, en fait. Ils sont super, ils connaissent vachement, vachement bien les contes des anciennes valses et tout ça, alors que nous, des fois, on fait les bases de valses, mais en danse classique, on en fait pas beaucoup. Et au tango, il y a des personnes, des personnages, des personnes qui connaissent vraiment bien, quoi. Et ça, moi, si j'y vais pour apprendre, en fait.
Et vous vous laissez guider ouais. Dans les danses de salon.
J'ai plusieurs partenaires. Non, mais c'est chouette d'apprendre. Toujours.
Dans ces prochaines années, là, vous pensez à continuer l'écriture chorégraphique, et est-ce que la transmission, ça fait partie aussi de ce que vous avez envie de poursuivre ?
Ah bah oui, bien sûr. Moi, j'adore enseigner. C'est juste que, voilà, on n'a pas le temps de faire tout dans une journée, malheureusement. Mais donc il y a des moments où j'enseigne, des moments où je chorégraphie, des moments où je danse. Les trois choses me plaisent. Les trois métiers me bottent. La pédagogie, l'interprétation et la création, c'est quand même pas du tout les mêmes choses. Hein. C'est pas les mêmes métiers. Hein. Donc normalement on n'est pas doué pour le tout. Enfin non, on n'est pas censé savoir tout faire quoi. Et moi je m'éclate dans les trois.
Merci beaucoup, Marianne Gillot, pour ce moment ensemble.
C'était la masterclass de Marie-Agnès Gillot avec Aurélie Charron. Coordination, Arnaud Laporte. Attaché de production, Chouchane Djergaillant.